Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
À Marseille, tout le monde ne parle que de ça. C'est le titre de la presse. Patrick Salamé, Jacques l'Éventreur de Marseille. Et donc, en plus qu'on s'attaque à une jeune femme, à des prostituées, Salamé, c'est le monstre.
Bonjour. Au premier coup d'œil, Patrick Salamé affiche le visage de la respectabilité. Allure mince et sportive, rasé de frais, cheveux poivre sel et pull de marque. Difficile de discerner en lui cet homme qui a hérité de surnoms effrayants comme le Barbe Bleue de Marseille, le Jack l'Éventreur de la Canebière, diagnostiqué comme un psychopathe par les psychiatres. À l'automne 2008, les policiers du SRPJ de Marseille vont découvrir le parcours de cet individu, déjà bien connu de la justice, Patrick Salamé va ainsi apparaître successivement derrière les disparitions de une, deux, puis trois prostituées. On va aussi le soupçonner d'avoir enlevé et tué une jeune baby-sitter. De quoi faire de cet homme, a priori discret et poli, passionné par les histoires de crimes, l'un des tueurs en série les plus inquiétants qu'il soit. Ses victimes n'ont jamais été retrouvées. Comment, au terme d'une spectaculaire enquête, la police est-elle remontée jusqu'à lui? Quel secret protège-t-il encore aujourd'hui? Question posée à nos invités en direct depuis le vieux port de Marseille.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, en partenariat avec le journal La Provence, l'affaire Patrick Salamé, ce chef de chantier qui vit à Marseille, va apparaître à l'automne 2008 derrière les disparitions successives et inquiétantes de trois femmes. Toujours le même mode opératoire, l'ombre d'un prédateur plane sur la ville. Dimanche 5 octobre 2008, dans la soirée, Irina Sitnik, une prostituée de 42 ans, est à sa place habituelle, à proximité d'un abribus, à hauteur du numéro 14 du boulevard Sacchini, dans le 4e arrondissement de Marseille. D'ordinaire, Irina, de nationalité russe, partage cet endroit avec trois autres filles des pays de l'Est. Mais ce soir-là, Laura, Simona et Viorica ne sont pas là. À 3h du matin, l'une d'elles note toutefois que la voiture d'Irina est toujours là et que son téléphone sonne dans le vide. Disparition signalée au commissariat 3 jours plus tard. Mercredi 22 octobre, Cristina Bahuela, 23 ans, prostituée roumaine, exerçant boulevard du Prado, disparaît à son tour. Toutes ses affaires sont restées dans sa chambre, dans un petit hôtel proche de la Canebière. 9 novembre, Zineb Chebout, algérienne, prostituée occasionnelle du quartier de la gare Saint-Charles, ne donne elle aussi plus aucune nouvelle. Les policiers marseillais sont intrigués par cette succession de disparitions qui se ressemblent. Ils ne croient guère aux coïncidences. La téléphonie indique que pour les deux premières filles, leurs portables ont borné pour la dernière fois dans une même zone, en direction du nord de la ville. Juste avant de disparaître, Zineb Chebout a appelé une amie, patronne de bar, pour lui dire qu'elle était avec un pigeon. Un Français qui venait de lui proposer 900 euros pour une nuit. La patronne tique, car une autre fille, Soumia, s'est elle aussi vue proposer 900 euros par un client, un désaxé, qui l'a laissé partir après une soirée d'enfer. Mardi 11 novembre, Soumia est entendue par la police. Elle décrit ce client qui lui a proposé 900 euros. Autour de 40-45 ans, cheveux grisonnants, il se déplace en Renault Clio commercial, dépourvu de place à l'arrière. Elle est montée avec lui. Elle a tout de suite compris qu'il faisait des tours et des détours dans la ville. Elle a voulu téléphoner à sa sœur, mais le client lui a pris son portable en disant que ça lui donnait mal à la tête. Elle se souvient d'être arrivée devant une petite maison avec un portillon et un jardinet où traînaient des jouets. Ils ont emprunté un escalier étroit menant à un appartement vide dans une chambre bleue. Un vieux matelas sur le sol avec une serviette éponge. Soumia dit avoir remarqué quelques taches de sang. Elle indique que le client est devenu méchant puis violent. Il l'a attrapé par les cheveux. « T'es chez moi, ferme ta gueule, tu ne parles pas, c'est moi le patron », lui a-t-il dit. Il l'a ligoté, l'a traîné sur le sol, il tenait une matraque. Elle s'est mise à pleurer. « Si tu restes gentille avec moi, si tu ne cries pas, tu ne crains rien. Si tu fais la méchante, il y a plein de filles en bas. » Il l'a giflé, lui a cogné la tête, l'a insulté, l'a violé. Après 2 heures de sévices, l'homme a pris un trousseau de clés et a conduit Soumia vers la salle de bain. Il lui a demandé de ne pas crier. Dans une baignoire, elle certifie avoir vu une femme nue, les yeux levés au ciel et qui semblait morte. « C'est une pute qui n'était pas gentille », a-t-il dit. Il a ensuite bandé les yeux de la jeune femme et l'a déposée à un arrêt de bus près de la Timone. Dans la nuit, éblouie par les phares, elle n'a pas pu relever le numéro d'immatriculation. Le témoignage vertigineux de Soumia est jugé crédible. Les policiers apprennent que l'individu qui pourrait correspondre au suspect utilise la carte SIM d'Irina Sitnik, la première prostituée disparue. Il propose 10 euros à des jeunes gens pour qu'ils insèrent la carte dans leur téléphone. Il envoie ensuite un message, sans doute dans le but de faire croire qu'Irina est toujours vivante. Opération répétée à plusieurs reprises. 12 novembre, un peu plus d'un mois après le début de l'enquête, l'individu en question est interpellé après une sombre dispute. Il s'appelle Patrick Salamé, 51 ans, chef de chantier au chômage, une compagne, deux enfants. Il roule dans une Renault Clio blanche à deux portes. Et voilà donc pour l'arrestation d'un homme, Patrick Salamé, dont le nom va beaucoup faire couler d'encre. Il va apparaître au cœur des disparitions des trois prostituées. Soupçonné aussi d'avoir enlevé et tué une jeune babysitter, mais on va voir ça plus tard. On va voir ce qu'il va raconter et quelles pistes vont suivre les policiers dans la suite de l'heure du crime. Alors il faut reprendre ce dossier par son commencement, ou tout au moins par ce qui apparaît aux policiers. Une, deux, trois prostituées qui disparaissent en un mois. En plein Marseille. Bonjour Denis Trocero.
Bonjour.
Merci infiniment d'être aujourd'hui avec nous dans le studio de l'heure du crime qui est installé à Marseille. Nous sommes en direct depuis cette ville, votre ville, Denis Trocero. Vous êtes journaliste, spécialiste justice police. Vous connaissez bien cette affaire parce que vous l'avez suivi pour le journal La Provence et vous êtes auteur du livre Règlement de compte à Marseille, paru aux éditions Mareuil dans la collection Jacques Dallest. Alors évidemment, c'est pas des règlements de compte en Marseille proprement dit, mais il y a ces trois disparitions de prostituées dans un temps très rapproché. Ça frappe tout de suite la police judiciaire.
Oui, jusqu'à la deuxième disparition. Les policiers s'interrogent, mais à la troisième, ils se disent que trois disparitions dans le monde des prostituées, et notamment des prostituées de nuit étrangères, il doit se passer quelque chose. Donc ils commencent à s'interroger, ils se disent que peut-être ils ont affaire à un tueur en série. D'où l'initiative que va prendre la PJ assez rapidement de créer un groupe spécialisé, à la fois composé de groupes du proxénétisme, du groupe Prox, et également du groupe de la brigade criminelle. Et c'est vrai qu'un tueur en série à l'époque à Marseille, on a eu beaucoup d'affaires.
C'est le premier du genre.
Alors oui, on a connu, j'ai fait, pour la rédaction de mon livre, j'ai fait quelques recherches. Marseille a connu dans les années 98-2000 un tueur en série qu'on appelait Sid Ahmed Rezala.
Rezala, bien sûr, Rezala, le tueur des trains.
Le tueur des trains, voilà. Mais alors il va sévir, il sera interdit par le tribunal judiciaire de Marseille de séjour à Marseille. Donc il va tuer une victime à Amiens, une autre dans le train entre Limoges et Paris. Mais finalement, il se donnera la mort en prison dans sa cellule un soir de match. C'est à peu près le seul exemple qu'on a de tueur en série à Marseille.
Et encore, c'est un itinérant. Là, on est vraiment sur Marseille avec ces trois prostituées qui disparaissent. Encore un mot, Denis Trocero. Vous l'avez dit un petit peu, mais il faut le souligner, l'enquête, elle est tout de suite très active. Et moi, je suis étonné parce qu'on voit et comment les policiers ont procédé. C'est tout azimut. Ils vérifient absolument tout.
Oui, ils vont chercher tous azimuts parce que chacun sait que dans ces dossiers de tueurs en série, il faut aller vite parce que très vite on peut avoir un certain nombre de morts. Mais c'est vrai qu'on n'est pas vraiment habitué à ça à Marseille.
Bonjour, maître Victor Juria.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous également dans le studio marseillais de l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Marseille, alors vous connaissez bien le pénal, vous avez traité de beaucoup, beaucoup de dossiers et vous continuez à le faire. Et dans cette affaire, vous êtes l'avocat des parents de Fatima Saya. Fatima Saya, on va en parler, c'est la jeune babysitter, donc vous connaissez bien ce dossier. On viendra à Fatima Saya dans la suite de l'heure du crime. Alors on parlait de cette enquête très importante et très active et très nerveuse avec Denis Trocero. Maître Jules, la dernière prostituée disparue, elle avait dit qu'un client lui avait proposé 900 euros. Ça va servir de fil rouge à cette affaire. Entre en scène Soumia, je l'ai décrite, elle aussi on lui a proposé 900 euros, donc ça intéresse les policiers, parce que là on est un peu dans le même mode opératoire. C'est totalement effarant ce qu'elle raconte Soumia, dans cette chambre bleue.
Le descriptif que fait Soumia est un descriptif effectivement ahurissant. Vous reprendrez peut-être les éléments de ce qui sont décrits. Mais l'imaginer en audience, la voir, s'expliquer, le descriptif. Ça renvoie à une cruauté, à une férocité qui défie l'entendement. On est au-delà du réel.
Elle ne peut pas mentir.
Elle ne peut pas mentir. Il y a une force, une crédibilité qui se dégage de cette femme, qui glace le sang, même au travers d'un procès-verbal qui est lu. C'est tout à fait sidérant.
Denis Trocero, effectivement, sur ce qu'elle raconte, c'est une espèce d'emprise. Et elle s'en sort un peu miraculeusement, finalement, des griffes de cet homme.
Oui, c'est une des spécificités, une des singularités de ce dossier, alors que il y aura 3 victimes et même 4. Soumia, Patrick Salamé la laisse repartir. Il la laisse repartir vivante. Donc elle va être particulièrement crédible auprès des enquêteurs parce que dans la chambre bleue, sur la description qu'elle va donner de la chambre bleue, mais aussi de la maison qui sert de garçonnière,
maison,
au 29 campagne Bareil,
un peu vieillotte, etc.,
avec des escaliers, elle décrit parfaitement les escaliers, elle décrit les jouets d'enfants qui se trouvent au pied de ces escaliers, elle décrit dans la salle de bain donc cette victime avec les yeux levés au ciel, les yeux révulsés,
et les
cheveux qui lui tombent sur les yeux.
Et ça, c'est très frappant. On ne va pas retrouver de femme dans la baignoire, quand on va la surnommer. Ça reste encore aujourd'hui un mystère. Maître Joya, il ne se cache pas cet homme avec Soumia. En tout cas, il n'est pas cagoulé, etc. Elle l'a vu, c'est un client.
C'est un client, il ne se cache pas, mais je pense aussi qu'il sait qu'elle va mourir. Donc il a en face de lui une future victime, il connaît son sort. Mais soulignons quand même que cet homme, M. Salamé, est un homme qui relève du prédateur, qui est rusé, particulièrement intelligent.
Ouais.
Et pour en revenir à Soumia, je dirais que c'est deux instincts qui se rencontrent.
Ouais.
L'instinct du criminel, qui rencontre l'instinct de survie de cette femme, qui va tout de suite trouver les clés de la personnalité de ce tueur en série.
Oui, parce que j'ai pas tout raconté, mais effectivement, elle fait attention à lui. Elle a vu qu'il était vraiment détraqué, que ça n'allait pas et que sans doute elle allait mourir. Et là, elle s'est adaptée au personnage. Donc elle décrit ça très bien aux policiers. C'est tout à fait étonnant et effrayant.
Elle sait parfaitement comment trouver la clé et elle va dompter l'animal.
C'est ça. Alors, justement, je reste avec vous, Maître Joya, sur Patrick Salamé. On l'arrête là pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur lui. On va l'interroger, on va voir dans la suite ce qu'il va raconter. Mais il a un casier judiciaire très chargé déjà.
Il a un casier judiciaire, mais je dirais que la particularité de ce dossier, c'est que le grand banditisme connaît la cruauté de Salamé bien avant la justice.
Expliquez-nous.
En effet, quelques années plus tôt, dans le Var, il intègre une équipe qui va participer à un homejacking. Et alors que chacun s'affaire à son poste, à son rôle, chercher les effets personnels, mettre de la pression, mais pas trop, ce sont des professionnels du grand banditisme, lui, il disjoncte complètement. C'est-à-dire qu'il a un acte de cruauté qui sidère les gens qui sont venus pratiquer un homejacking, c'est-à-dire qu'il va planter un poignard de pêche dans le pied de l'un d'entre eux et le tourner pour le torturer. Et ensuite, il va pratiquer un sévice sexuel qui sera cité dans ce dossier.
C'est ça. Donc, alors, il y a déjà un passé qui est lourd avec cet homme.
Il a un passé
de tortionnaire.
Un passé de bourreau, de tortionnaire. Il a déjà fait parler la cruauté. Elle a déjà explosé.
Le suspect va être longuement interrogé. Il ne va pas se reconnaître dans l'habit d'un tueur en série. Mercredi 12 novembre 2008, Patrick Salamé est en garde à vue à l'évêché, l'hôtel de police de Marseille. Il se dit étranger à ses affaires de disparition, victime sans doute de son casier judiciaire chargé. En 1993, il avait été condamné aux assises à 20 ans de prison pour une séquestration sur fond d'affaires financières. Il avait transpercé le pied de sa victime pour la faire parler. La perquisition à son domicile ne donne rien. On tombe toutefois sur un manuscrit qu'il a rédigé, refusé par une maison d'édition et intitulé « Alfredo Stranieri, la balance, l'esprit des tueurs en série ». Stranieri, surnommé le tueur aux petites annonces, avait été condamné quelques années auparavant pour 4 meurtres. Les policiers découvrent surtout que Patrick Salamé dispose d'un autre logement, une grande bâtisse ocre qui appartient à sa mère, en partie occupée par des locataires, au 29 avenue Campagne Bariel, une impasse du quartier de Saint-Mitre. Soumia, témoin numéro 1, est conduite sur place Elle reconnaît tout de suite, avec une crise d'angoisse, les lieux où elle a été frappée et maltraitée. L'appartement semble abandonné. Dans la chambre bleue, une chaise en fer, un vieux matelas, une culotte rose, un pendentif en forme de main de Fatima. L'examen au Blue Star détecte des taches de sang sur le sol. Le profil ADN d'Irina Stinnik va être découvert à 4 reprises dans la chambre bleue. Une perle de boucle d'oreille est reconnue comme lui appartenant. Les ADN de Zineb Chebout et Christina Bahuela sont aussi détectés, ainsi que d'autres empreintes de femmes non identifiées. Patrick Salamé ne répond pas aux questions sur les disparitions. Il se dit fatigué, en état de choc, psychologiquement faible. Il est mis en examen. L'enquête continue. Plusieurs filles reconnaissent en Salamé un client habituel. Simona le décrit comme un homme bizarre qu'il a un jour giflé. À Ileana, il avait offert 1000 euros pour qu'elle le suive chez lui. Elle ne l'avait trouvé pas très clair. Elle avait décliné la proposition. Des voisins de la maison de Saint-Mitre sont interrogés. Une femme assure avoir été réveillée à plusieurs reprises fin octobre par des cris intermittents dans la maison. Des cris d'une personne qui devait se faire frapper, dit-elle. Une autre résidente confirme avoir entendu une nuit début octobre les cris d'une femme qu'on battait, qu'on maltraitait. Des témoins disent encore avoir vu un homme poussé dans la nuit, un grand diable gris chargé de matelas. Des fouilles sont entreprises dans la propriété, dans le canal qui passe derrière la maison. Aucun ossement découvert. Réinterrogé par la juge, Patrick Salamé finit par admettre qu'il fréquente des prostituées. Irina Stidnik l'a bien suivi chez lui, dans la chambre bleue, mais il ne lui a fait aucun mal. Il ne s'explique pas la présence de l'ADN de Zineb Chebout. Quant à celui de Christiana Bahuela, c'est parce qu'elle a déposé sur le sol son tampon hygiénique. Vendredi 6 mai 2011, presque 3 ans après son interpellation, Patrick Salamé est mis en examen pour une 4e disparition. Celle de Fatima Saya, une babysitter de 20 ans, disparue le 7 mai 2008. Elle avait été contactée par un homme divorcé qui souhaitait faire garder ses enfants. Les enquêteurs estiment que le bornage téléphonique désigne Salamé. Il nie à nouveau les faits. Ses avocats appellent à se méfier de la description caricaturale qui est faite de leur client. Description effectivement qui peut passer pour être caricaturale parce qu'il est désigné comme par exemple le Barbe Bleue de Marseille, ça sera l'un de ses surnoms. Il est donc mis en examen Salamé pour 4 séquestrations suivies de meurtres et la séquestration de Soumia qui également lui est reprochée. Elle apparaît aujourd'hui comme une rescapée. Il ne reconnaît, il faut bien le dire, il ne reconnaît aucun de ses crimes et ne fait pas le moindre aveu. Alors, Salamé est arrêté. On en parle avec l'un de nos invités, c'est Denis Trocero, journaliste. Vous avez suivi toute cette affaire pour le journal La Provence et vous êtes auteur du livre Règlement de compte à Marseille qui est paru aux éditions Mareuil dans la collection Jacques d'Aleste. Alors, il y a la visite de cette maison, la maison qui appartient à la maman de Salamé. Apparemment, c'était la base arrière de cet homme. Il s'en servait, il récupérait des matelas et puis il recevait des femmes et des prostituées dans ce logement. Cette visite, elle est fructueuse parce qu'on trouve beaucoup de choses côté policier.
Totalement, totalement, parce que on va y retrouver à la fois des rouleaux de ruban adhésif, mais on va surtout des cordelettes. On va trouver aussi, des éléments pileux des victimes. On va aussi trouver des gants chirurgicaux et surtout un étui qui est fixé du sol au plafond et dont les enquêteurs vont penser qu'il servait à attacher les victimes. Et puis on va trouver aussi, c'est important, une bouteille d'acide chlorhydrique qui, avec un taux de pureté de 23%, ce qui est très important, paraît-il, diront les enquêteurs, et qui laisse penser évidemment que l'auteur présumé des faits a pu se livrer à ses sévices et à ses violences dans ce contexte-là. Si on le rapproche du jour de l'interpellation, où on va retrouver ensuite, où on a retrouvé le 12 novembre 2008 dans la sacoche banane de Patrick Salamé, un prospectus sur la crémation, ça pose un certain nombre de questions qui aiguillonnent particulièrement les enquêteurs.
Et puis il y a l'ADN, évidemment. Hein.
Exactement.
Ça, l'ADN, il parle et c'est très difficile à...
L'ADN, c'est l'aveu d'hier, hein. c'est la preuve scientifique, c'est la reine des preuves d'hier. Donc,
ouais, c'est ça. Donc ça, effectivement, ça fait beaucoup de choses contre cet homme. Il a beau garder les silences, nier, etc. Ça a l'air très compliqué pour lui. Encore un petit mot, Denis Trocero. Il y a Soumia, son témoignage. Elle dit qu'il y avait une femme qu'elle croit morte. En tout cas, elle avait toute l'attitude d'une morte, cette femme, les yeux fermés, enfin les yeux au ciel, les cheveux en arrière dans cette baignoire. Là, on ne retrouve pas de corps quand même.
Non, alors ça, effectivement, il va se retrancher derrière cet élément-là. C'est aussi un élément majeur qu'utiliseront ses avocats pour laisser penser que Soumia est affabulatrice, ce que ne diront pas plus tard les experts psychiatres. Donc, parce qu'elle a donné précisément un certain nombre de détails qui sont véridiques hein, dans le temps qu'elle a passé sur place.
Parce qu'elle a même été expertisée par des psychiatres qui vont dire mais elle dit la vérité.
Elle dit la vérité.
Et c'est pas une affabulatrice, c'est pas une mythomane. Hein,
exactement. Comme toutes les victimes, elle donne pas tous les détails, mais dans cet instant figé dans son esprit, dans sa conscience, elle va raconter un certain nombre de choses qui sont exactes.
Alors il y a une quatrième victime qui est reprochée à cet homme, Fatima Saya. C'est pas une prostituée, c'est une babysitter. Elle a 20 ans. On n'est pas dans le cadre du tout des prostituées qui sont sur le trottoir marseillais. Maître Victor Joya, vous connaissez parfaitement ce dossier et je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui dans le studio marseillais de l'heure du crime parce que vous êtes l'avocat des parents de Fatima Saya, justement. Qu'est-ce qu'on sait sur ce qu'aurait pu faire Salamé avec cette jeune femme? On a très peu d'indices, mais toutefois, il va être confondu, mais par quoi?
Il y a une chronologie. Il y a une chronologie des faits, on le verra plus tard, mais Salamé est très intelligent, il laisse son téléphone portable à la maison, qui ne borde bien sûr pas. D'ailleurs, il se retranche sur ça là-dessus à l'audience en disant que son téléphone ne bornait pas, sauf qu'il a une carte RTM, que la carte RTM, elle, se déplace.
Alors, RTM, c'est les transports, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, une carte de transport. On verra que le jour des faits, sa carte va borner. Il y a aussi des modes opératoires qu'il utilise. C'est-à-dire que ce sont des personnes à qui il va demander de téléphoner à d'autres personnes pour faire du babysitting.
Oui.
Donc il utilise déjà un stratagème.
Et oui, parce que Fatima Saya, lorsqu'elle disparaît à une station de métro, on va en reparler évidemment de Fatima Saya dans cette heure du crime, elle envoie un message. Mais qui trouble tout le monde, parce que ça ne lui ressemble pas.
Fatima Saya, c'est une jeune fille parfaitement élevée, qui est insérée, qui veut simplement faire un peu de babysitting, qui a une vie, qui a un fiancé, Mehdi, qui a été dans ce dossier très présent. Et rien ne coïncide. L'histoire qu'a pu inventer Salamé pour se forger un alibi, une situation ne coïncide pas avec les pratiques de Fatima, avec son quotidien, avec sa vie véritable. Il est confondu par des éléments objectifs et matériels. Mais un élément important, dans la chronologie, on s'aperçoit que l'affaire de Fatima, c'est en mai 2008.
Et que, par contre, c'est la première.
C'est la première. Elle déclenche un ouragan à Marseille. Sa disparition émeut totalement la population. Marseille est au bord de l'émeute. Marseille veut savoir ce qui s'est passé.
À ce point-là, oui.
Ce qui est arrivé, c'est devenu une affaire tellement importante que lorsque monsieur le procureur d'Alest vient à Marseille, il dit à Marseille, j'ai trois préoccupations. L'une des trois, c'est élucider l'enlèvement de Fatima.
Alors ça fait beaucoup de bruit, effectivement, mais là, on ne peut pas trouver de piste. Hein. Elle s'est évaporée, Fatima Saya. À ce moment-là, il n'y a pas d'indice.
Hein. À ce moment-là, il n'y a absolument aucun indice. Toutes les thèses les plus folles sont imaginées, mais la population veut savoir et est sulfureuse.
Denis Trocero, drôle de personnage quand même, ce Patrick Salamé. Il n'a pas fini de nous surprendre. D'ailleurs, il va surprendre encore tout le monde à ses procès, parce que là, ça va être aussi très long, ça va être une véritable saga. Patrick Salamé, il est fasciné par les tueurs en série, c'est ça? Il voulait même écrire un livre.
Exactement, il a écrit ce livre qui sera refusé par un éditeur sur la vie d'Alfredo Stranieri, tueur en série. Mais il fréquente surtout à l'époque aussi la bibliothèque El Alcazar à Marseille, et se documente sur ce qu'il appelle l'esprit ou la psychologie des tueurs en série. Et pour sa défense, il va dire... Oui, c'est tout à fait normal, ça me passionne, mais voilà, quand monsieur Max Gallo écrit des bouquins sur Napoléon, il se renseigne sur Max Gallo.
C'est moins dangereux quand même.
Oui, quand PPDA quand après Patrick Poivre-d'Arvor écrit des livres sur Hemingway, il fait la même chose, donc il se retranche derrière ce système de défense-là. Mais je voulais juste rajouter sur le pistage de Salamé dans la psychologie du personnage. Les policiers vont nous dire à l'époque, à la presse, ils vont nous dire qu'ils acquièrent peu à peu la conviction qu'entre le mois de mai où Fatima disparaît et le mois de novembre 2008, ils se mettent dans la peau du personnage Patrick Salamé. Ils pensent que, comme le dit fort justement Maître Joya, en fait, il s'est attaqué à une jeune fille sans défense, dont tout Marseille voit le visage angélique et les mèches brunes.
20 ans.
Et là, il prend peur parce que tout Marseille se préoccupe de cette affaire. Et donc, on pense, les enquêteurs vont penser, je pense que c'est une bonne analyse, qui s'est mis en retrait, qui s'est fait oublier quelques mois, et que là, d'un coup, il va s'en prendre à celles qu'il croit être des personnes, des victimes, des proies complètement déracinées, qui n'ont aucun lien avec Marseille, et que ce sera beaucoup plus facile pour lui.
Enquête bouclée, une longue série de procès va suivre.
Il y a homicide suspecté, il y a disparition. Pour l'instant, nous recherchons des disparus. On verra si ce sont des corps que nous trouverons ou si ce sont des filles vivantes. Des fouilles sont en cours dans divers lieux où nous sommes susceptibles de trouver ces personnes disparues.
Lundi 17 mars 2014, Patrick Salamé, 56 ans, fait une entrée fracassante dans la salle d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Il gesticule, il crie qu'il ne veut pas de photos, il annonce que son procès ne durera pas longtemps car il va faire des déclarations importantes. Il accuse les policiers d'avoir truqué l'enquête, fabriqué des indices, déplacé des bijoux pour l'accuser. Il reconnaît seulement avoir mené ses trois filles à son appartement. « J'ai couché avec elles, il n'y a aucun problème », dit-il. Le problème, c'est qu'elles disparaissent après vous avoir vu, indique le président. Salamé répond en s'adressant ainsi au juré. Vous avez vu la feinte du président pour vous embrouiller ? Salamé, noirci des feuilles de notes, traite les juges et les policiers de menteurs et de manipulateurs. Pendant trois semaines, l'accusé ne cesse de multiplier les coups d'éclat. Il fixe de son regard Soumia, la prostituée qui a permis de l'identifier. Elle est terrorisée. Le président lui demande de cesser de la regarder. Roland Gonzalez, policier de la brigade criminelle de Marseille, égrène les erreurs qui ont permis l'arrestation. Ces messages téléphoniques envoyés pour faire croire que les disparues étaient vivantes. Un autre enquêteur s'interroge sur les transports de deux matelas sur le diable. Pourquoi un tel trafic, sauf à penser qu'il pourrait y avoir un corps entre les deux matelas, s'interroge-t-il. Les psychiatres évoquent un comportement qui ressemble à celui d'un grand déséquilibré, psychopathe. Un individu qui passe de la séduction à la domination toute puissante, puis à la chosification de sa victime. S'il n'est pas psychopathe, eh bien moi, je ne suis pas psychiatre, fait remarquer l'expert Daniel Zaguri. Cet homme est tourné vers le mal. Il n'a plus rien à faire dans notre société, assure l'avocat général Patrick Salamé, et est condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Patrick Salamé, totalement déroutant. On vous retrouve dans cette heure du crime dans le studio RTL de Marseille. Maître Victor Joya, vous êtes avocat ici à Marseille et vous êtes avocat des parents de Fatima Saya. C'est la baby-sitter. Cette histoire, elle va être jugée par la suite. Mais pour l'instant, on a déjà un aperçu de ce personnage à ce premier procès. Il est complètement, extravagant.
Extravagant, mais méthodique, comme dans ses crimes. Intelligent et rusé, comme dans sa façon de capturer les proies. Il connaît son dossier par cœur. Il note les pages, les cotes, il y en a des dizaines de milliers. Il les maîtrise parfaitement. Il passe d'une page, d'un feuillet à une autre. Il reprend les interrogatoires. Il se promène. C'est son histoire, son procès, ses crimes. Et il entend bien être à la barre de son audience.
Il se met en scène.
Tout à fait. Il se met en scène et il tient haut. La mise en scène.
Denis Trocero, vous êtes journaliste, spécialiste police-justice, et vous aviez suivi cette affaire pour la Provence. Il est mégalomane, manifestement, Patrick Salamé. Comme d'ailleurs beaucoup de tueurs en série, il aime qu'on parle de lui, il faut qu'il existe.
Oui, il faut qu'il existe. D'ailleurs, il a écrit un certain nombre de correspondances avec Patrice Allègre, le tueur de Toulouse, avec Guy Georges aussi, le tueur de l'Ouest parisien.
Il leur écrit, c'est ça.
Il leur a écrit. On l'a retrouvé dans son ordinateur et je pense dans sa tête, il est le tueur en série. Il faut qu'il fasse son show. Il faut qu'il existe. Comme l'a dit Maître Joya fort justement, il hésite en permanence, il alterne en permanence la séduction, la menace, le charme, mais il est effectivement très intelligent et particulièrement roué.
Maître Joya, il y a des témoins qui sont apeurés par cet homme. Je parlais notamment de la prostituée qui a permis de le retrouver. Elle est là, elle tremble à l'audience.
Il y a des témoins qui sont apeurés, effectivement, parce qu'il continue son crime au-delà des meurtres. C'est assez exceptionnel. On la sent, la menace, lorsqu'on le voit, lorsqu'on l'entend, lorsqu'on le sent. Il est là, il est présent, c'est un animal dangereux. C'est un fauve. Et je dirais que le crime, il le continue au-delà de la mort. Songez quand même que c'est un homme qui peint avec un véritable talent, qui peint des scènes tout à fait étranges et angoissantes.
Et des corps de femmes, c'est ça?
Il a fait des corps de femmes découpés. On peut imaginer que chacun des tableaux est attribué à l'une de ces personnes, à l'une de ces victimes. Il donne le sentiment de cacher des indices dans ses œuvres d'art. Et sa célébrité a été au-delà de la France et de l'Europe, puisqu'il semblerait que des collectionneurs outre-Atlantique s'arrachent à prix d'or ces tableaux.
Et ça fait penser étrangement à Issei Sagawa, le cannibale à Paris, qui ensuite a été libéré. Il avait découpé comme cela une jeune étudiante hollandaise, et puis quand il a été libéré, il s'est mis à peindre. Et il peignait des corps déformés, des corps découpés, qui avaient beaucoup de succès. C'est un succès morbide, mais ça avait beaucoup de succès. Les experts psy de Nitrocero, ils sont formels sur sa dangerosité. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Oui, mais
Zaguri est très connu. Le docteur Zaguri, il dit c'est un psychopathe. Il n'y a pas de souci.
Mais d'ailleurs, pour la petite histoire, Salamé va refuser de s'expliquer devant l'expert psychiatre marseillais, mais avec son ego habituel, dès qu'on va lui dire que c'est Zaguri, l'expert national, qui va l'expertiser.
Ah, là, d'un seul coup, c'est
là,
pas pareil.
Là, d'un coup, il se sent rehaussé et Salamé va accepter. Et l'expert Zaguri va dire qu'il n'a pas de maladie mentale, mais qu'il est en permanence dans la chosification de l'être avec lequel de sa victime, donc, et qu'il a une fascination pour le crime violent et sexuel.
Ouais. Et ben justement, Maître Victor Joya, il déteste les femmes. Il y a un souci là-dessus. Il veut les avilir, il veut absolument les détruire.
Je pense qu'il aime particulièrement les choses et la soumission. Il aime les soumettre. D'ailleurs, dans ce que disait tout à l'heure Monsieur Don Nitrocero, de ce qui a été retrouvé sur place, il y a effectivement une étée, des sangles, des étés. Il y a une corde, il y a surtout une poulie. Et lorsqu'on a une reconstitution des lieux, on voit que le plafond où était fixé l'été a été détruit. On imagine, avec beaucoup d'effroi, comment, avant de succomber, les femmes ont été torturées et dans quelles souffrances abominables elles sont parties. Il adore, il met en scène la souffrance et il continue au-delà des actes par la pensée.
Un an et demi plus tard, il va comparaître pour l'enlèvement et la mort de la baby-sitter. Lundi 12 octobre 2015, Patrick Salamé, 57 ans, retrouve la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour l'affaire Fatima Saya. Le 7 mai 2008, cette baby-sitter de 20 ans avait rendez-vous à la station de métro Malpassée avec un homme. On ne l'a plus jamais revue. Deux heures après la disparition, elle a envoyé un texto étrange indiquant qu'elle passait le week-end avec une copine. Les policiers estiment que Salamé est derrière ce message et cette disparition, même si aucune trace ADN de la baby-sitter n'a été retrouvée dans la maison des crimes. Pendant trois jours, l'accusé ne parle quasiment pas. Puis, il raconte son enfance heureuse au milieu de ses 8 frères et sœurs, père syrien, mère libanaise, son basculement dans la délinquance avec des extorsions de fonds musclés. « Je n'ai jamais torturé », se défend-il. Il raconte son livre raté sur les tueurs en série ou encore ses talents d'artiste qui ne peint que des nus de femmes. « Je suis un original », dit-il. L'avocat général demande la perpétuité pour la disparition de Fatima Saya. L'un de ses avocats, Maître Molina, admet qu'il est difficile de défendre cet homme qui est désigné comme l'incarnation du mal et de la mort, comme un tueur en série avant même son procès. Patrick Salamé lui-même indique que cette affaire est un bloc d'émotions. Nous sommes tous atteints par cette jeune fille disparue, mais je vous demande de résister à l'émotion. Il est à nouveau condamné à la perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Et dans cette heure du crime, on retrouve Maître Victor Joya, avocat au barreau de Marseille, avocat des parents de Fatima Saya. Alors évidemment, vous êtes là à ce procès, Maître Joya. Il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'il nie complètement cette affaire de la baby-sitter et il s'adresse même aux parents. Il compatit avec les parents. C'est une démarche extrême, j'ai envie de dire.
La difficulté de ce dossier, c'est que
il y a pas de preuve.
Il nie effectivement, mais les parents nient aussi. Les parents ne peuvent
les
pas.
Les parents n'y croient pas.
Les parents ne peuvent pas. Les parents ne veulent pas admettre que Monsieur Salamé soit l'auteur des faits, parce que c'est immédiatement imaginer la souffrance, c'est imaginer les tortures qu'ont pu subir cette jeune femme. Ils préfèrent l'imaginer enlevée, par le petit compagnon de l'époque, Mehdi, piste qui a été retenue et qui a fait l'objet de développements extraordinaires. Et là, chacun cherche Fatima. Mehdi est très actif, il organise des marches, il organise des enquêtes. Tout Marseille cherche Fatima. Et ce qui va d'ailleurs poser un grave problème à cette enquête, puisque les enquêteurs vont recevoir des milliers et des milliers de pistes, d'indications. Et là, il faut rendre hommage aux enquêteurs. Denis Trocero les a suivis pour dire que toutes les pistes ont été vérifiées. Toutes. C'était un travail absolument colossal. Et d'ailleurs, les enquêtes type Profiler ont été testées sur ce dossier tentaculaire.
Ouais, c'est ça.
Tentaculaire. Vous avez d'un côté, et c'est toute la difficulté de cette affaire et de la partie que je représentais, donc l'auteur à qui on reproche l'enlèvement qui nie, et les parents qui sont d'accord pour ne pas avoir ce coupable entre les pattes.
Oui,
parce que l'imagination est trop terrible.
C'est trop cruel pour eux. Ils ne peuvent pas accepter que cet homme qui a un passé déjà très, très cruel ait pu être l'assassin de leur fille. C'est impossible pour eux de l'imaginer. On le comprend bien, Maître Gioia. Évidemment, à ces audiences, il est fantasque, on l'a dit, Salamé. Mais aussi, il accuse tout le monde. Il menace.
Il accuse, effectivement.
Il est très, très offensif.
Il est très offensif, il accuse, il menace, il refait le procès, il distribue les tours de parole. Il est présent et effectivement, il est très angoissant pour tout le monde.
Denis Trocero, journaliste, spécialiste police-justice, vous suiviez cette affaire pour le journal La Provence. Le journal, nous sommes en partenariat aujourd'hui avec La Provence. Et vous êtes auteur du livre « Règlement de compte à Marseille » qui est paru aux éditions Mareuil dans la collection Jacques Dallest. De perpétuité en 16 mois, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup, oui, mais je pense que c'est à la hauteur des, de ce qui a été reproché à Patrick Salamé, et aussi à la hauteur des dénégations qu'il a formulées. Ça veut dire que les jurés n'ont pas douté et aussi que les enquêteurs ont multiplié toutes les pistes, comme l'a dit Maître Gioia, à savoir la piste privée à laquelle on a pensé un temps, ou à la piste de deux mineurs qui auraient utilisé en douce leur téléphone portable pour appeler la babysitter ne tiennent pas la route. Donc
qui le confond finalement dans cette histoire, parce qu'il n'y a pas d'ADN?
Alors,
c'est le mode opératoire, c'est ça?
C'est le mode opératoire. D'ailleurs, la profileuse criminelle qui déposera à la barre de la cour d'assises viendra dire que le mode opératoire Salamé, c'est son utilisation de la téléphonie. En fait, c'est-à-dire cette façon qu'il a, il n'a pas de téléphone portable, mais cette façon réitérée qu'il a en permanence
de faire parler le téléphone des victimes,
notamment celui d'Irina, de mettre la carte SIM, de proposer la carte SIM contre 10 euros dans la rue près de la Canebière à des passants dans la rue, et de laisser des petits messages comme ça pour laisser penser que les filles sont encore vivantes. Ce qui, dans son intelligence rouée, hélas, il va, tel le petit poussé, semer des témoins dans les rues de Marseille. Et c'était intelligent, mais c'était aussi créer autant de témoins qui seront plus tard interrogés par les enquêteurs jusqu'à Saïf, ce jeune lycéen qui sort de garde à vue et qui va tomber par le plus grand des hasards sur la figure de Patrick Salamé, lui courir derrière.
Il y a la petite bagarre et c'est là
la bagarre fait... et grâce heureusement au concours et à la présence de policiers municipaux, ils vont arriver à immobiliser M. Salamé.
La police a bien travaillé, la police a eu de la chance, mais parfois ça arrive, donc ça s'est plutôt bien goupillé. Donc je le disais, de perpétuité en 16 mois, et on en parlait avec Maître Gioia, il est menaçant, il vous a menacé, Denis Trocero, vous avez reçu du courrier de sa part, non?
On a reçu quelques courriers, effectivement, mais il avait surtout des marches assez singulières pour un accusé de ce type. Il avait créé un blog qui était accessible, dans lequel il faisait ses commentaires quotidiens sur les avocats, sur les journalistes, donc se mettant en scène, distribuant les bons et les mauvais points à tel ou tel journaliste qui aurait bien rendu compte de son affaire. Évidemment, ceux qui étaient les plus indulgents avec lui s'en sortaient beaucoup mieux, mais aussi il va faire la même chose avec ses avocats, c'est-à-dire qu'en l'espace de 4-5 ans, il va remercier une dizaine d'avocats.
Oui, parce qu'ils ne sont pas à sa hauteur.
Exactement.
C'est un petit peu ce qu'il va raconter. Un condamné qui va faire appel de ses deux perpétuités, mais sans succès. « Jeudi 19 mai 2016, Patrick Salamé, 59 ans, est à nouveau condamné en appel à la perpétuité pour les 4 disparitions. Verdict définitif. Dans un recueil de 500 pages, le quatrième du genre, le tueur en série s'adressait aux parents de la baby-sitter Fatima Saya avec ces mots « Votre souffrance est immense avec la disparition de votre enfant de merveille, mais ce n'est pas moi ». Les corps des 4 victimes n'ont jamais été retrouvés. Après l'arrestation de Patrick Salamé, Marseille n'a connu aucune autre disparition de femme.
C'est comme ça s'était passé hier, on vit toujours avec ce mal de tête, l'estomac noué. On a peur de ce que peut être la réalité, mais on vit surtout avec l'espoir de la retrouver. La police, elle, de son côté, fait sa recherche. Moi, de mon côté, j'essaie vraiment de tendre l'oreille un peu partout. Pour tous ceux qui aimaient Fatima, la vie s'est arrêtée le jour de sa disparition.
Et c'est la voix de Mehdi, le petit ami de Fatima Saya, qui a très longtemps cherché Fatima. Je rappelle qu'il y a eu 4 victimes pour Patrick Salamé. Aucun corps n'a été retrouvé. On se demande ce qu'il a pu faire de ces corps. Il a été condamné pour ces meurtres, disparition et meurtre. Mais effectivement, il n'y a aucune trace de ces femmes, les 3 prostituées et la baby-sitter. Vous êtes avec nous, Maître Victor Joya, invité d'aujourd'hui de l'heure du crime à Marseille, dans le studio marseillais de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat des parents de Fatima Saya et vous connaissez parfaitement sur ce dossier. Qu'est-ce qui fait que Salamé bascule dans le crime? Il a plutôt une vie qui pourrait être très honnête, une compagne, 2 enfants. Il est intelligent, vous l'avez dit. Il peut être retors, mais il est très intelligent. Il est doué même pour certaines choses artistiques. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, cet homme...
Je dirais qu'avec les condamnations... Salamé est reparti avec ses secrets, avec ses mystères. Nul ne sait pourquoi le monstre qui était en lui a explosé à ce moment-là. On sait qu'il a découpillé en mai 2008. On sait que l'ouragan et l'émotion qui a étreint la ville de Marseille l'a incité à s'orienter vers des victimes, comme le disait Denis Trocero, dont il pensait qu'elle ne serait recherchée par personne. Pourquoi est-ce qu'il a explosé comme ça dans cette cruauté, dans cette férocité? Personne ne le sait. Ça reste un homme intrigant qui est parti avec ses mystères. Il y a quelque part un côté génial, mais un génie maléfique chez cet homme.
Maléfique.
Il y a une part de créativité et quelque part, je reviens sur ça parce que je pense que c'est important. Cet homme a peut-être caché une part de ses mystères et de ses meurtres dans ses tableaux, mais certainement une grande part de sa personnalité qui reste un mystère pour tous et peut-être même pour lui.
Ouais. Il y a une part de sadisme.
Une part de sadisme, mais je crois que la seule personne qui a réussi à avoir les clés dans l'instinct de survie, c'est bien sûr Soumia.
Oui, c'est ça. Elle, effectivement, c'est l'instinct de survie, c'est elle. Et c'est grâce à elle qu'effectivement, cette affaire, elle apparaît, elle ressort. Denis Trocero, vous êtes journaliste spécialisé justice, police, et vous aviez suivi cette affaire pour le journal La Provence. Je le disais, il a noirci des centaines de pages en détention. Il a écrit presque quasiment des ouvrages entiers, 200 pages, 300 pages, 400 pages, on va le surnommer le graphomane du crime, c'est dire. Qu'est-ce qu'il raconte dans ces pages successives?
Il essaie de se mettre à la place des tueurs en série et de visiter à sa manière la psychologie de chacun d'entre eux. Alors il a lu Cyrulnik, il a lu La Résilience, il a lu des experts, des psychologues, des sociologues, et il aura même cette phrase dans son bouquin: la plupart des tueurs en série sont de bons pères de famille qui aiment leurs enfants. Est-ce qu'on doit y lire là l'empreinte de son aveu, l'empreinte de ses non-dits? Mais en tout cas, même le patron de la PJ de l'époque, Roland Gauss, dira à la barre de la cour d'assises, dira que c'était un personnage hors norme, un cérébral du crime, une intelligence supérieure.
Oui, c'est ça. Maître Joya, une question. Il y a 4 enlèvements de 3 enlèvements de prostituées, l'enlèvement de la baby-sitter, 4 femmes qui ont disparu, je l'ai dit, on n'a jamais retrouvé les corps. Là aussi, il y a une part de mise en scène et de génie criminel de la part de cet homme, aucune trace. Est-ce qu'il aurait continué si on ne l'avait pas arrêté? Je sais qu'il y a un si dans la question, mais selon vous...
Il n'y a pas de si. Il aurait continué jusqu'à ce qu'on l'arrête, c'est indéniable. Et je pense que quelque part, cet homme avait besoin de l'être arrêté. Il avait besoin de s'expliquer, de communiquer, Et je crois qu'il considérait ces crimes comme, quelque part, ses œuvres. Il y avait une forme de théâtralisation. Il poussait tellement loin l'effroi, tellement loin le détail. Alors, le détail dans tout ce qu'il ne disait pas, dans ce qu'il dessinait, dans ce qu'il peignait. On peut imaginer le détail dans ce qu'il a pu leur faire. Il y a une part de créativité. Et je pense que la créativité, elle était jusqu'à l'audience. C'était son œuvre et il fallait que ça se sache. Donc, je pense qu'il aurait continué jusqu'à se faire arrêter. Pour moi, ça fait aucun doute.
Il était devenu célèbre, c'est ça? Il y a cette part-là aussi, sûrement.
À un moment, il est devenu le communicant de son œuvre. Et son œuvre, c'était des crimes poussés à l'excès dans l'horreur.
C'est ça, donc effectivement, il se met en scène, il y a ces crimes qui sont poussés à l'extrême. Maître Victor Joya, encore une question, cette histoire, elle vous a particulièrement marqué, avocat. Je le disais, vous avez beaucoup de dossiers criminels, vous avez vu passer d'autres histoires. Vous la portez.
Monsieur Salamé est un homme exceptionnel, on vient de le dire, d'une intelligence supérieure et d'un esprit d'une complexité hors norme. Je pense qu'il est compliqué de rencontrer un être pareil. Heureusement.
Ouais. Heureusement. Il a été condamné 2 fois à la perpétuité. Est-ce qu'il pourrait sortir un jour? Il va pouvoir demander sa libération conditionnelle? C'est soumis aussi aux familles des victimes, hein, à l'approbation.
Il la demandera parce qu'il c'est un combatif né. Donc il continuera. Et d'ailleurs, ses avocats, notamment Maître Molina, a eu beaucoup à faire et il a très bien représenté. Et il reprendra du service quand le moment sera venu, je pense. Il continuera à se battre jusqu'à son dernier souffle. Il ne se laissera pas déposséder de ses crimes, de leur histoire et de leur suite. Et d'ailleurs, je pense qu'il continuera à peindre et qu'il faut s'attendre à d'autres œuvres de sa part.
Juste encore un petit mot, c'est une histoire qui a marqué Marseille, Denis Trocero.
Complètement, comme je disais tout à l'heure, on a eu des tueries à Marseille. Marseille est connue pour ça, mais des tueurs en série, non, pas jusque là. Et pour terminer, je dirais, il y a un profiler qui disait à la barre de la cour d'assises, qui disait que si Monsieur Salamé continuait à écrire son bouquin sur les tueurs en série, il pourrait désormais se consacrer un chapitre à lui-même.
Merci infiniment Denis Trocero et Maître Victor Joya en direct depuis Marseille d'avoir été les invités de l'heure du crime. Nous étions aujourd'hui en partenariat avec le journal La Provence. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, réalisation Nicolas Godet et Thibault Renoir.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.